Bonjour, nous sommes les éco-délégués de 4e et 3e du collège Marcel Aymar. Éco-délégués, ça veut dire que l'on fait partie d'un club en rapport avec l'environnement. On monte des projets, on fait des sorties et on partage ce que l'on sait et ce que l'on a appris aux autres. L'année dernière, nous avons participé au projet 10 mois 10 mots sur le thème de la planète. Il s'agissait d'écrire une nouvelle incluant 10 mots imposés, canopée, glanée, empreinte, conséquentiant, butinée, scolaire, vivant, palmerée, biome et débroussée. L'une de ces nouvelles a gagné le concours organisé en interne. Nous vous présentons aujourd'hui dans cette émission une lecture de ces nouvelles dans le cadre de l'initiative Novembre Vert.
Novembre Vert, un mois pour se réinventer. Au même titre que la sensibilisation au dépistage du cancer du sein permet de colorer toute une ville en rose, nous sommes convaincus que face à l'urgence climatique et environnementale, il est nécessaire que les questions de réappropriation de modes de vie durables occupent l'espace public durant tout un mois. 15 collectifs et associations du Sud Aveyron lancent Novembre Vert, Vert V-E-R-S, un mois dédié à la découverte et à la mise en œuvre de pratiques simples et accessibles à tous pour vivre mieux tout en préservant nos ressources et la planète. Pendant un mois, nous sommes tous invités à faire évoluer nos habitudes. Il s'agira de promouvoir des comportements bénéfiques à tous les niveaux, montrer les enjeux et les limites de nos modes de vie et construire des alternatives. Réduire notre impact environnemental et limiter le changement climatique. Amorcer un mode de vie résilient pour se préparer aux chocs à venir. Améliorer notre qualité de vie et renforcer le lien social. Et insuffler une nouvelle manière de voir le monde. C'est sur ce dernier point que les élèves du collège ont travaillé. Certaines classes ont participé à un concours d'affiches de Novembre Vert. D'ailleurs, bravo à Lola et Sajida de 3e 5 qui ont gagné. Et les éco-délégués viennent aujourd'hui vous lire des nouvelles écrites l'année dernière. Des nouvelles inspirantes, pleines d'espoir et qui démontrent l'attachement de nos jeunes à la nature. Bonne écoute.
Bonjour, je m'appelle Gabin. Je vais vous présenter ma nouvelle qui s'appelle The Savior of the World. Chapitre 1. Je m'appelle Marius. J'habite à New York, en 2263. Je vis dans un appartement au 115e étage avec mon père et ma sœur. Ma mère nous a quittés il y a peu. Les personnes que j'aime, mon père, ma sœur, mon chat, mon ami Brice et mon grand-père. Je vais souvent chez Papy Jean. Il me raconte toujours sa vie de jeune garçon. Les forêts, les arbres, les plantes, les animaux. De nos jours, les forêts n'existent plus. Les animaux en laboratoire. Les plantes chez les gens riches. Et les arbres en cendres. Mais moi, je veux changer ça. Je veux planter des arbres, préserver les plantes, sauver les animaux, reconstruire les forêts. Je viens d'avoir 15 ans. Mon grand-père est très malade. Un an plus tard, il nous quittera. Son rêve était de reconstruire notre monde. Et je veux réaliser ça. Chapitre 2. Je viens de finir ma journée de collège. Je suis en troisième. Je marche vers ma maison en compagnie de mon ami Brice. Nous discutons de notre ville, du béton à perte de vue. Même pas une touche de couleur dans cette métropole grisâtre. Des malaises chaque jour à cause de la disparition des arbres. Nous sommes obligés de porter des bouteilles d'oxygène dans le dos pour pouvoir survivre. C'en est trop. On ne peut pas vivre dans ces conditions. Il y a une semaine, Brice et moi nous avons concocté un plan pour sauver les plantes de la ville. Le grand frère de Brice, Maël, travaille comme garde dans les laboratoires. Il nous y infiltrera pour que nous puissions voler des semences et les amener en dehors de la ville, pour les faire germer et recréer un coin de nature. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de zone terreuse à des kilomètres à la ronde, à part dans la zone 73. C'est un espace de terre entouré de grillages, de barbelés, quasiment impénétrable. Chapitre 3. Demain, nous mettrons notre plan à exécution. 6h du matin. Brice et moi rejoignons Maël devant l'entrée du laboratoire. Il nous fait entrer dans deux valises, sous prétexte de transporter des boutures de chêne pour le labo. Nous passons discrètement devant les vigiles. Maël nous dépose dans les vestiaires. Nous attendrons la nuit pour agir. 21h. Le laboratoire est vide. Nous sortons des vestiaires et nous nous dirigeons vers les salles de dissection et ouvrons la porte. Nous apercevons les semences en sachet et les prenons. Nous les déposons dans notre sac. La sortie sera plus dure. Nous envisageons de sortir par la bouche d'aération. Chapitre 4. Minuit. Nous sommes sortis sans trop d'encombre. Nous regagnons nos maisons pour garder les plantes sous serre avant de les planter dans la zone 73. Nous nous endormons après cette journée chargée. Je me réveille, l'esprit tranquille. Brice et moi marchons vers la zone. Soudain, nous voyons deux gardes qui patrouillent autour des grillages. Ils nous ont repérés, trop tard pour se cacher. Ils nous poursuivent en nous tirant dessus et leur chien robotique nous rattrape peu à peu. Brice trébuche, le chien robotique lui bondit dessus pour l'immobiliser. À ce moment-là, nous entendons une détonation. Le chien cyborg tombe. Une balle est logée dans son torse. Nous regardons l'endroit d'où venait le tir et nous apercevons Maël, armé d'un fusil pointé sur les deux gardes. Ces deux derniers fuient en apercevant Maël. Chapitre 5. Nous rejoignons la zone 73 et franchissons l'épaisse défense qui la protège. Là, devant nous, se trouvent des espaces de terre et d'herbe. Nous repérons un endroit à l'ombre. Nous nous avançons et creusons pour y planter nos semences. Chapitre 6. Je m'appelle Marius. J'habite à New York en 2267. Je vis dans une maison à l'orée de la forêt. Je vis avec mon père et ma sœur. Les personnes que j'aime. Mon père, ma sœur, mon chat et mon ami Brice. Depuis notre action, il y a maintenant 4 ans, le monde a radicalement changé. Les forêts se multiplient. Les insectes butinent. La palmeraie et les canopées ont été reconstruites. Les gens glanent au bord des chemins. L'empreinte carbone a diminué. Les biomes vont mieux. Maintenant, tout le monde est conscient. Le débroussage et le défrichage sont interdits. Les êtres vivants ont tous été réintroduits et toutes les voitures marchent à l'énergie solaire. Fin.
Bonjour, je m'appelle Juliette et aujourd'hui je vais vous présenter ma nouvelle qui se nomme Olu. La sonnerie retentit dans les couloirs. Lisa, collégienne de 15 ans, sort de sa salle de cours. On la reconnaît très vite grâce à sa chevelure rousse tressée et sa peau pâle. Elle habite un joli petit village engagé pour la nature, au cœur du bois du Varg, loup en suédois. Sur tous les toits se trouvent des panneaux solaires pour subvenir à leurs besoins. Tous les matins et tous les soirs, elle va en vélo en cours. C'est très pratique. Elle se rappelle une fois où elle avait pu glaner dans les champs au bord de la route. Son meilleur ami, Arès, la rejoint quand elle entre dans la ville. Aujourd'hui, il fait beau, nous sommes en plein milieu du printemps. Elle rejoint ses amis dehors. Ils parlent d'un projet entrepris par la mère. Raser le bois du Varg pour construire de nouveaux immeubles pour de nouveaux habitants. Lisa est surprise et plus encore, elle est en colère. Elle parle avec Arès. Ils veulent détruire la forêt du Varg et nous chasser de chez nous. Arès hoche la tête et dit « Oui, mais je suis d'accord avec toi, il ne faut surtout pas qu'ils rasent la forêt. » Surprise, Lisa le regarde et lui demande « Mais comment comptes-tu faire ? C'est quasiment impossible. » Arès explique son point de vue. « On pourrait faire des affiches ou écrire une lettre à la mère. » Ils parlent de leur projet tout au long du chemin. Quand Lisa rentre chez elle, ils se sont décidés. Lisa écrira un courrier pour la mère le lendemain matin. Elle court vers Arès et ses amis, les joues rouges d'excitation, et leur lit la lettre. « Chère Madame la Mère, je suis une habitante du village du bois du Varg. Je me permets de vous écrire pour vous déconseiller de raser ce bois. Saviez-vous qu'il y avait des loups qui y vivaient ? Ce loup, tout le monde s'en plaint. Quand on parle de lui, les gens pensent à un prédateur, un carnivore qui dévore tout ce qui lui passe sous la patte. Mais ce loup n'est pas que ça. C'est un animal qui vit sous la canopée, caché de l'être humain de peur d'être tué. C'est un animal qui est souvent en meute, qui a des louveteaux à nourrir au printemps. Alors, je vous en supplie, ce bois, dans lequel on trouve de nombreux êtres vivants, ne le rasez pas pour des immeubles. Cordialement, des adolescents conséquentiels. » Lisa retient son souffle et regarde ses amis, en attente d'une réponse. Arès la regarde, impressionnée. Il s'écrie « Waouh, trop bien ! Tu devrais faire avocate ou écrivaine, un truc dans le genre. » Ses amis approuvent. Certains la félicitent même. Le soir, Arès et elle envoient la lettre et vont dîner chez Lisa. Ils prennent une couverture et un sac de randonnée et partent au milieu du bois. Ils établissent leur campement au bord d'un ruisseau. Ils se racontent leur histoire, leurs rêves. « Moi, j'aimerais que notre forêt devienne un biome, grande et verte, » dit Arès. Puis, exténués, ils s'endorment au champ des grillons. Le lendemain matin, Lisa se réveille au son des abeilles qui butinent. Elle se lève sans un bruit et s'approche du ruisseau. Dans la terre boueuse, elle distingue des empreintes de loups. Elle réveille Arès qui grogne doucement avant d'ouvrir les yeux. Elle pose un doigt sur ses lèvres pour lui dire de ne pas parler et le tire par le bras. Ils marchent en silence, Lisa suivant les empreintes. Au bout d'un moment, elle fait signe de s'arrêter et pointe du doigt quelque chose au milieu d'une clairière. Les yeux d'Arès s'agrandissent de surprise quand il découvre une louve et ses petits. Il la regarde pendant quelques minutes, puis la mère tourne brusquement la tête vers eux et part avec ses petits. Ils restent silencieux un moment, puis échangent un regard brillant. Ils repartent au campement et ramassent leurs affaires. Ils courent vers le hameau en sautant partout et en chantant à tue-tête. Lisa passe ensuite le week-end à penser au loup, mais une semaine plus tard, la mère répond. « Je ne peux pas arrêter les opérations qui sont déjà en cours, cordialement, Madame la mère. » Lisa en reste bouche bée. Elle court vers son vélo et file sur la route, jusqu'à chez Arès. Elle sonne et attend en trépignant. Arès ouvre la porte et la regarde surpris. « Lisa ?» Elle lui tend le papier. Il ouvre la bouche, stupéfait, puis se met en mouvement. Il explique rapidement ce qu'il a en tête à Elisa. Puis il attrape son téléphone et commence à appeler le plus de monde possible. Lisa prend son vélo et commence, elle aussi, à rapatrier du monde. Ils se retrouvent devant le bois du Varg. Il y a 100 personnes, au moins. Ils se placent tous devant le bois, de façon à barrer la route. Arès arrive près de Lisa et lui sourit. Il lui tend un porte-voix. Elle lui rend son sourire, quoique un peu plus nerveux, et s'avance devant la foule. Devant elle, il y a tous les camions pour le chantier, des voitures de police, et même la mère. Elle rapproche le porte-voix de sa bouche et dit « Nous ne partirons pas d'ici tant que le projet de nouveaux immeubles ne sera pas arrêté. » Fin.
Merci. Bonjour, je m'appelle Élise et je vais vous lire la nouvelle écrite par Paloma, qui se nomme Sacha et qui a gagné le concours. Sacha, un nom souvent masculin, mais parfois féminin. Un nom qui glisse sur la langue lorsqu'on le prononce, qui sursure à ton oreille lorsque tu l'entends. Eh bien, c'est mon nom. Je m'appelle Sacha et j'ai 14 ans. J'habite normalement en ville, à Paris, mais vu les circonstances, je me retrouve en pleine campagne aveyronnaise. Mon grand-père maternel est mort il y a déjà une semaine. Ma mère a besoin de se retirer pour réfléchir et ruminer sa tristesse. Enfin, c'est ce qu'elle dit. Moi, je crois plutôt qu'elle fuit. Bref, elle m'a confié à sa mère, ma grand-mère. Me voilà donc chez elle. Mon grand-père était un homme exceptionnel. Il était super engagé sur la cause animale, la protection de la nature et de l'environnement. Un jour, il a été malade, mais ce jour-là, il avait prévu un grand coup. « Le meilleur de ma carrière », disait-il. Ce coup consistait à s'attacher à un arbre pendant 48 heures minimum. Ils étaient environ une centaine de participants. Ma grand-mère, sa femme, le lui avait interdit pour sa santé. Mais il était quand même allé et ça lui avait été fatal. 24 heures sans manger plus tard, il était mort, comme ça, sur un coup de tête, en laissant derrière lui sa femme, sa fille et sa petite-fille. Depuis, je me balade souvent dans la nature, ça me fait penser à lui et ça me rassure. Je vais d'ailleurs y aller, j'ai besoin d'être seule. Mamie, je vais me balader. Ok ma chérie, mais ne va pas trop loin, le soleil va bientôt se coucher. Oui, oui. L'air frais rentre dans mes poumons, me picote le visage et réveille tout mon corps de sa longue torpeur. Le soleil réchauffe mon visage. La forêt semble me tendre les bras, je ne résiste pas à cet appel. Je cours et mes idées s'envolent avec le vent. Essoufflée, je m'arrête au bord d'un étang et m'assois. La petite étendue d'eau miroite dans la lumière du soleil couchant. Soudain, un reflet fait son apparition à la surface de l'eau, un reflet qui n'a rien à faire là. Je m'approche doucement, m'attendant à voir un poisson ou une grenouille, mais c'est le visage de mon grand-père qui apparaît. Je fais un bond en arrière. Le reflet ouvre la bouche et parle. Sa voix a l'air de venir de nulle part et de partout à la fois. « Ma chérie, Sacha, oh ma grande !»« N'aie pas peur, je voulais juste te parler. Mais je sais, tu te poses beaucoup de questions. Je n'ai pas beaucoup de temps et il faut que je te parle. » Je hoche la tête, incapable d'ouvrir la bouche. « Vois-tu, mon enfant, je suis mort lors d'une action. Une action pour la nature, ça, tu le sais. Mais je ne crois pas que ta mère et ta grand-mère t'en aient parlé plus que ça. Tout être vivant a sa place sur Terre. » Cette action était importante et elle va entraîner tout un tas d'autres actions. Pour la conservation des palmeraies, empêcher des personnes de débrousser, afin que les abeilles puissent continuer à butiner, apprendre aux humains à être conséquents et à gérer leur empreinte. Je réfléchissais à tout ce que me disait mon grand-père. Tout ça résonnait étrangement en moi. Le soleil était désormais au niveau de la canopée. Mon grand-père aussi était silencieux. Nous profitions tous les deux de ce moment. Il finit par casser le silence. « Dorénavant, ma chérie, si tu veux bien, glane des informations et étudie chaque biome, comprends la nature et elle te comprendra. Je t'aime. » et il disparut. Je me sentais un peu nauséeuse. Tout cela faisait un peu trop peur pour moi. Je me lève, oscille un peu et rentre chez moi, lentement, un pied après l'autre. En passant le pas de la porte, la voix de ma grand-mère retentit. « Sacha, il fait déjà noir dehors. Va vite faire tes devoirs. Tu n'avais pas une évaluation demain sur le système solaire ? Eh bien, vas-y !» Fin.
C'était la seconde émission présentée par les éco-délégués du Collège Marcel Aymard. Nous vous avons lu les nouvelles que nous avions écrites pour le concours de 10 mois 10 mots sur le thème de la planète. Elles sont diffusées sur Radio Larzac dans le cadre de Novembre Vert. Merci de votre écoute. Vous pouvez retrouver cette émission sur radiolarzac.org.